Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1.
Europe 1. 10h, 11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour à nos chères correspondants sans lesquelles Europe ne serait pas Europe. Bonjour Justine,
bonjour Capucine. Catherine.
Bonjour tout le monde.
Oui, c'est Médiapolis, toujours en direct. Votre serviteur en studio, Catherine à distance, réalisé par Jean-Luc Arblat, préparé par Capucine Patouillet, animé avec Justine Holman. Et vous avez aimé le Tour d'Europe, vous allez adorer le Tour de France, puisque aujourd'hui Médiapolis est avec certains de nos correspondants en région. Lionel Gougelot dans les Hauts-de-France, Arthur Mbaché dans le Grand Est.
Bonjour.
Frédéric Michel pour la Côte d'Azur.
Bonjour à tous.
Stéphane Place pour le Sud-Ouest.
Bonjour.
Et Benjamin Péter en Occitanie.
Bonjour à tous.
Ils sont tous là. Et pour commencer, Canteloup.
Jean-Marie Bigard a déclaré avoir appelé Emmanuel Macron par l'intermédiaire de Patrick Sébastien pour lui demander de revoir sa politique de déconfinement. Ça, c'est au sujet des bars, bien sûr. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Attends, excusez-moi, je remets à jour ma liste. Alors, Bigard, c'est fait. Ok. De Villiers, c'est fait. Camilla Jordana, non, ça c'est Castaner qui s'en est occupé ce week-end. Nabila... Non, Nabila, c'est Brigitte qui s'en est chargée.
Non, mais qu'est-ce que vous faites là, Monsieur le Président ?
Je vous dis, je mets à jour ma liste des appels que nous devons passer aux emmerdeurs célèbres. Vous savez, c'est ces casse-pieds qui passent leur temps à l'ouvrir sur les réseaux sociaux pour m'expliquer comment je dois gouverner. Vous savez, ils sont très écoutés par les provinciaux. Et je n'ai pas envie qu'ils fédèrent autour d'eux, qu'ils fédèrent des mécontents pour 2022.
Ah, c'est vrai que c'est une hypothèse hein, qu'on dit très redoutée par vos équipes. L'outsider populiste en 2022.
Mais oui, c'est une préoccupation, donc je dois régulièrement les appeler pour les calmer.
Ah.
Attendez, excusez-moi.
Allez-y.
Allô ?
Ouais, salut Manu ! C'est Patrick Sébastien !
Ah. Ouais. Bonjour Patrick !
C'est le déconfinement, c'est la fête ! Alors, t'as appelé Jean-Marie, pareil ?
Oui, tout à fait. Mais merci Patrick, merci mille fois de m'avoir donné le numéro. Oui, on va lui rouvrir son bistrot.
Bah, tu sais quoi, t'as raison. Tu sais, je pense qu'il faut que tu rouvres les cabarets. Il y a une urgence, faut ouvrir les spectacles de magie. Oui. Le championnat de rugby, c'est important. Mm-hmm. Puis tu vois, les boutiques de farce et attrape, ça paraît rien, mais c'est important aussi. Le français, il a besoin de se payer son coussin péteur, de se regarder son Biarritz Toulouse l'après-midi, puis aussi de voir des filles à poil le soir. Parce que c'est la vie, c'est ça la France. Allez, vive la République, Manu.
C'était Nicolas Canteloup lundi. Alors avant de faire le Tour de France, on va quand même discuter quelques minutes avec Catherine Ney sur cette façon qu'a le président de la République d'échanger avec des personnages d'abord très marqués politiquement à droite, comme Philippe de Villiers ou comme Bigard qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez
D'abord, il ne faut pas mélanger les deux. Philippe de Villiers, il le connaît depuis longtemps. Il s'est rendu au Puy du Fou pendant qu'il était en campagne présidentielle. Là, il y avait un vrai sujet, savoir si on ouvrait ou pas ce grand spectacle qui a tellement de succès, qui rapporte tant à la région, et savoir si avec les musées barrières, les téléspectateurs pouvaient revenir. C'est autre chose que Bigard, qui est un humoriste qui a été très contesté ces temps-ci, des spectacles ont été annulés en raison de ses positions, parce que depuis l'affaire Weinstein, c'est vrai qu'on ne peut plus parler de viol en public ou de lâcher de salope comme on parlait avant. Hein. Bon, et alors Bigard, si vous voulez, dans un dîner rêvé pendant que vous étiez confiné, c'est vrai que vous ne pensiez pas à lui pour dire, voilà, j'aimerais l'inviter à déjeuner. Parce que son langage ordinaire est toujours grossier. C'est vrai, il accumule les mots grossier, il fait chier, connard, enculé. Enfin, je le cite, hein, tout ça est entre parenthèses, qu'il n'ajoute. Enfin, voilà, il a l'air de se faire plaisir à lui-même. Et quant à l'humour, c'est toujours en dessous de la ceinture. Il parle des femmes de manière libidineuse, obscène et franchement, vous voyez, alors c'est vrai que le président qui a toujours aimé la transgression, alors c'est vrai qu'entre être disciple de Ricoeur et puis téléphoner à Bigard, vous voyez que son spectre est large dans ses amitiés, qu'est-ce que ça rapporte? Alors c'est vrai que Bigard, il s'est un peu immiscé dans la politique en soutenant les Gilets jaunes et puis là au municipal, il a soutenu obtenu Marcel Campion, d'ailleurs avec un succès mitigé, puisqu'il n'en fait que 0,40%. Donc c'est pas porteur. Mais là, il a fait, parce qu'il a fait une vidéo où il chiait, comme il disait, sur tous ces connards, ces menteurs du gouvernement, il a eu 8 millions de gens l'ont vu. Donc il croit qu'il a le peuple avec lui. Bon, alors ça, est-ce qu'il représente le peuple, lui qui habite les beaux quartiers, qui met ses enfants dans une école très privée du 7e arrondissement? Il suffit qu'il croit que parce qu'il parle ordurier, qu'il parle des salopes, ça suffit. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces présidents, avec Bigard? Moi, je me souviens quand Nicolas Sarkozy avait amené Bigard, qui est très croyant, paraît-il, il va à la messe, enfin, il croit en Dieu, c'est très bien. Il l'avait amené visiter Benoît XVI. Alors là, moi, j'avais trouvé que c'était vraiment... Et alors, j'avais une vieille cousine qui m'avait téléphoné, qui m'avait dit, tu sais, hein, ton Sarkozy, mon Sarkozy, c'est fini, je ne voterai plus jamais avec lui, c'est vraiment du blasphème, c'est vraiment, c'est épouvantable. Donc, que peut rapporter Bigard à Macron? Des ennuis, et puis c'est pas reluisant. Et moi, je m'étonne que Marlène Schiappa ait pas réagi.
Voilà. Voilà, alors je tiens la conclusion de Sciences Politiques de ce que nous a révélé Catherine Ney avec sa vieille cousine, oui, qui a abandonné Sarko du jour où il a emmené Bigard voir le pape.
Absolument.
Macron n'a pas forcément eu raison de faire ces petits échanges avec Bigard d'un point de vue du calcul politique. Allez, maintenant, on va commencer notre Tour de France. Notre Tour de France avec, comme première question que j'ai envie de poser à quelques-uns d'entre vous, parce qu'on va traiter les thèmes, pas à chaque fois avec tous, mais avec une partie d'entre vous, sur quel a été le débat, qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui, plus qu'autre chose, dans votre région. Et peut-être en commençant avec vous, Lionel Gougelot, dans les Hauts-de-France.
Débat, c'est plus l'image d'un homme politique, et cet homme politique, c'est Xavier Bertrand. C'est le président de la région Hauts-de-France qui est franchement la personnalité qui émerge de cette séquence de crise sanitaire ici dans la région, parce qu'on l'a vu dès le début des prémices de l'épidémie, prendre en quelque sorte la première ligne du combat contre le virus, et notamment dans la mobilisation en faveur du monde économique et des entreprises, parce qu'il avait prévu qu'il y aurait effectivement des difficultés avec le déblocage d'une enveloppe assez conséquente, hein, 50 millions d'euros, pour venir en aide aux entreprises. Il annonce aujourd'hui un véritable plan de relance. Il a été omniprésent, en fait, hein, sur la scène médiapolitique de cette séquence. Il y a eu évidemment, on s'en souvient tous, cette double séquence de la tribune du JDD dans laquelle il comparait Emmanuel Macron dans la lutte contre le Covid-19 et Charles de Gaulle en 1940. Vous voyez, cette espèce de parallèle qui était assez douloureux d'ailleurs pour le chef d'État actuel. Et puis il y a eu la fameuse scène de la commémoration de Montcornet face à Emmanuel Macron, où on a vu Xavier Bertrand masqué devant le président de la République, alors que tous les autres responsables politiques régionaux avaient ôté le masque face au président de la République. Xavier Bertrand qui avait volontairement enfreint la règle qu'avait instaurée l'Élysée ce jour-là. Et puis, encore une fois, Xavier Bertrand sur le devant de la scène pour protester, pour se dire choqué, pour être indigné. En début de semaine, lors de la visite d'Emmanuel Macron sur le site de Valeo, à côté du Touquet, pour l'annonce de son grand plan de soutien à l'industrie automobile, là encore, Xavier Bertrand qui s'est vraiment imposé, semble-t-il, hein, comme l'un des opposants numéro un à Emmanuel Macron, bien sûr, dans l'optique des élections présidentielles de 2022.
Donc, dans les Hauts-de-France, l'émergence et la présence très forte au premier plan de Xavier Bertrand, en est-il de même au plan national? Je pose la question à Catherine Ney, qui nous répond dans quelques instants.
Ce matin, dans Mediapolis, Olivier Duhamel et Catherine Ney font un tour de France pour voir comment se passe le déconfinement. Qu'en est-il pour les différentes régions? Eh bien, on voit ça avec les correspondants d'Europe 1.
Alors, Catherine Ney,
oui.
Bertrand, est-ce qu'il a aussi émergé sur le plan national dans cette période?
Au plan national, non. Mais ce qui est déjà formidable, son grand talent, c'est d'avoir tellement émergé dans ces Hauts-de-France qu'il est le patron des Hauts-de-France et reconnu comme tel par tout le monde. Et déjà, il est dans une position d'opposant à Emmanuel Macron. Et comme président de région, dans la Macronie, on dit on n'a personne pour les prochaines régionales à lui opposer. Donc, c'est déjà un premier succès. De là à dire qu'il est le prochain candidat à la présidentielle, peut-être. Il en a sûrement envie, mais comment va-t-il se présenter, arriver ? Enfin, je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et c'est un peu trop tôt pour le dire.
D'accord. Alors maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait débat, qu'est-ce qui a pu dominer dans le Grand Est. Et je vais poser la question à Arthur Elmbacher, je précise, H-E-L-M-B-A-C-H-E-R, parce que c'est la première fois que je peux voir comment son nom s'appelle. À chaque fois que je l'entendais, je me disais, mais Elmbacher, ça s'écrit comment ? Allez, à vous.
Il y a plein de gens qui pensent que ça écrit M-A-C-H-E. Et en reportage sur le terrain, mais attendez, vous n'êtes pas noir, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça m'arrive très souvent.
Voilà, on a donc levé un mystère très très important. Vous n'êtes pas noir et ce n'est pas M-A-C-H-E-R. Je répète, H-E-L-M-B-A-C-H-E-R.
Alors, ça s'écrit en alsacienne, voilà. Je voulais vous parler de la fameuse carte rouge-vert, vous vous rappelez de la première publication de cette carte qui était un événement national. Tout le monde était les yeux rivés sur sa télé pour voir à quoi ressemblait cette fameuse carte. C'était un choix politique et un choix médiatique important d'en faire justement un événement. On se disait, tiens, voilà ces deux couleurs de région, ça va pas être pour rien. Les raisons de ces deux couleurs, elles étaient importantes. Vous vous en souvenez, les taux d'occupation en réanimation, etc. etc. On se disait, en conséquence, il va y avoir des mesures différentes, très fortes, en fonction des régions, les unes et les autres, les vertes et les rouges. Sauf que, à Strasbourg, comme à Perpignan ou je sais pas où ailleurs, on a pu, au lendemain de la publication définitive de cette carte, au début du déconfinement, tous aller s'agglutiner chez Zara ou H&M, ou alors les enfants de maternelle à Strasbourg, alors pas à Strasbourg en l'occurrence, mais dans plein de coins du Grand Est, ont pu se retrouver les uns les autres. La seule différence qu'il y a eu pour les régions rouges, c'était les collèges et les jardins publics. Donc, une conséquence vraiment minuscule par rapport à la place qu'a pris l'annonce de cette carte. Et en fait, si on a vu apparaître petit à petit une conséquence principale, qui a d'abord inquiété, je dirais, les élus et puis ensuite les entrepreneurs, le monde économique, ils ont commencé à s'en plaindre assez rapidement, c'était la stigmatisation. Je suis rouge, donc j'en souffre. Cette étiquette rouge, et on l'a entendu, peut-être que vous l'avez entendu l'autre matin sur notre antenne, ce Mulhousien qui a voulu réserver des vacances en Bretagne, tout s'est bien passé, la réservation était faite, tout était bien, le RIB et tout ça, jusqu'au moment où l'hôtelier breton au bout du fil s'est rendu compte qu'il venait de Mulhouse, et donc il a décidé d'annuler la réservation parce que, étant mulhousien, zone rouge, il était pestiféré. Donc ça a été principalement ça la conséquence de ce classement, qui a pris une place énorme dans notre vie politique et médiatique pour finalement les collèges et les parcs et les jardins, c'est-à-dire rien du tout.
Catherine ?
Oui, est-ce que parallèlement, alors qu'aujourd'hui les Français commencent à faire des réservations en France, est-ce que les hôteliers, les hôtels, les campings notent quand même des inscriptions dans votre région ?
Je suis
moins qu'ailleurs.
Et pour l'instant non. Je pense que les gens du coin, et d'ailleurs ce sera parfait, j'ai moi-même, vous savez quoi, j'ai réservé des vacances dans les Vosges cet été, parce qu'on ne savait pas encore comment ça allait se passer. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui viendront de loin, parce que ça restera cette étiquette de région rouge. Qu'est-ce qu'on aurait allé quelle idée d'aller se mettre dans le Grand Est cet été, alors qu'on a la possibilité d'aller dans des coins qui en plus sont plus, j'allais dire, typiquement des lieux de vacances. Donc,
ouais. Merci beaucoup. On n'avait pas beaucoup entendu parler, à part le reportage que vous évoquez, de cet effet du rouge, en fait. Et de cet effet potentiellement durable, même, ce qui serait le pire. Juste, avant de passer à un autre sujet, juste très brièvement, Benjamin Peter, est-ce qu'il y a un sujet qui domine un peu chez vous, en Occitanie ?
Chez nous, il y a un sujet qui domine, c'est une inquiétude, plutôt, en fait. C'est par rapport à l'aéronautique, l'aérospatiale. À Toulouse, c'est une terrible mono-industrie, hein, finalement. C'est une force et en même temps une faiblesse. Toulouse sans avion, c'est quelque chose qu'on évoquait un peu au coin du feu pour se faire peur. Mais quand on a entendu Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, fin avril, nous dire que c'était la survie d'Airbus qui maintenant était en jeu, il y a eu un peu comme un mouvement de panique. En chiffres, il faut se dire que dans la région, Airbus, c'est 27 000 emplois juste pour Airbus, mais il y a tous les sous-traitants. Ça, c'est 86 000 emplois dans la région Occitanie. Et vous savez, ça fonctionne par des rangs, rang 1, rang 2, rang 3, c'est-à-dire rang 1, vous travaillez directement pour Airbus, rang 2, vous travaillez pour des sous-traitants d'Airbus, etc. Et en gros, là, finalement, tout le monde a un peu rapatrié sa production. Il y a eu les plus gros qui ont fermé la réception des commandes. Tout s'est négocié, en fait, chacun dans son coin. Et j'en parlais avec des petits sous-traitants qui me disaient qu'il y avait comme une image de cascade, c'est-à-dire plus vous êtes haut, près d'Airbus, finalement, vous pouvez encore continuer à travailler, et plus vous êtes bas, il n'y a pas de ruissellement, là, c'est vraiment plus que des petites gouttes, et il n'y a plus de travail, ce qui fait que il y a beaucoup d'observateurs économiques qui disaient qu'ils redoutaient réellement 40 000 suppressions d'emplois à terme. C'est ça qui voilà, l'épée de Damoclès, finalement, elle est là, avec peut-être le risque d'un syndrome à la Détroit aux États-Unis. Vous savez qu'il y avait cette mono-industrie autour de l'automobile et qui s'est déclarée en faillite, hein, en 2013, parce que y a beaucoup de gens qui sont partis puisque cette économie s'est effondrée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui inquiète, d'autant que la question, elle s'invite dans le débat des municipales ici à Toulouse. Puisqu'il y a une liste qui est arrivée deuxième, qui s'appelle Archipel, c'est une liste citoyenne, avec à la fois la France Insoumise, des figures du monde associatif, il y a des Gilets jaunes aussi, et puis Europe Écologie Les Verts, qui a la tête de liste. Et justement, cette tête de liste, Antoine Maurice, il s'est présenté un peu pendant la campagne comme le monsieur anti-avion, opposé au tout avion, à cette mono-industrie, justement. Oui. Alors, il a un peu modéré son discours, là, depuis quelques jours, forcément, mais c'est vrai qu'il est en capacité de gagner et que du côté des milieux économiques, on se demande comment est-ce que ça va avoir des conséquences pour l'industrie aéronautique.
C'est là où on voit l'intérêt de faire ce voyage en région, parce que on a trop souvent une vision nationale. Et par exemple, sur le plan national, on s'aperçoit qu'il n'y a pas encore une vraie prise de conscience de la gravité de la crise économique et sociale devant nous, et que la perception des choses est encore très, très sanitaire, et que donc là, il y a la joie de ce qu'on appelle à tort le déconfinement, de ce que j'appelle moi l'éloignement. On est passé du confinement à l'éloignement, on n'est pas revenu à l'époque d'avant. Mais en revanche, il y a des endroits où il y a quelque chose qui pèse plus qu'ailleurs, c'est la stigmatisation d'avoir été rouge, on nous a dit dans le Grand Est, c'est la crise de l'aéronautique en Occitanie, et ça c'est un peu caché par le fait que souvent on a une vision trop des perceptions et moyennes nationales. Alors, je vais vous garder un instant avec nous, Benjamin Peter, pour ouvrir un sujet nouveau qu'on va aborder très très brièvement, mais qui est un sujet médiapolitique qui compte un peu quand même, et qui est celui de la présence, les difficultés, les ventes ou pas, de la PQR, ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale, pendant cette pandémie, et on y vient juste dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce samedi, ils font un point sur la situation en région avec nos correspondants sur place.
Vous êtes nos correspondants radio, mais il y a un autre média qui est fondamental, peut-être encore plus en région que les quotidiens nationaux, c'est ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Alors je voudrais qu'on fasse un petit tour assez rapide dans lequel on puisse voir à la fois avoir une idée de l'étendue des dégâts en termes de vente, de publicité, enfin de survie pour ces journaux. Et puis, est-ce qu'ils se sont, de la même façon que les médias nationaux, incroyablement polarisés sur le coronavirus, qui a fait toutes les unes pendant 2 mois et demi, qui a fait toutes les ouvertures et plus quasiment la totalité des journaux télévisés, etc. Est-ce qu'il y a eu le même phénomène dans la presse régionale? Alors, on commence avec vous, Benjamin Peter, mais rapide, hein.
Oui. Déjà, nous, il y a une conséquence directe, c'est la baisse des ventes. Voilà, 15% de baisse des ventes au numéro. Ça a été le coup près, la première chose. Après, on a vu aussi dans les éditions, vous savez, je les regarde toutes, tous les matins, et on voyait que finalement, des éditions qui sont autour de Toulouse, qui généralement seront différentes les unes des autres, vous avez un cahier spécial, là, elles étaient regroupées. Donc, il y a eu vraiment une optimisation quelque part. Il y a 5 éditions qui en sont devenues plus qu'une, Toulouse. Et ça, il y a finalement aussi des journalistes à la Dépêche qui se disent, est-ce que, est-ce que ça va continuer, quoi ? Est-ce qu'on va revenir à la normale après ou pas ? Et puis, il y a un autre point très important qui était le portage de la dépêche du midi chez les gens, parce que voilà, les gens qui sont abonnés le reçoivent par la Poste. La Poste a expliqué qu'elle allait se mettre en service minimum fin mars. Et ça, Jean-Michel Bailey, le PDG de la Dépêche, est rentré dans une colère noire. Parce que ben voilà, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas livrer son journal chez les gens. Il a menacé de porter plainte contre la Poste même. Et au final, la Poste, mi-avril, a annoncé que le journal serait livré 5 jours par semaine. Donc, ce qui a un peu apaisé les choses.
Très bien. Alors, on bouge un tout petit peu. On va un peu se rapprocher de Bordeaux. Stéphane Place.
Alors, Sud-Ouest s'est adapté pendant la crise en essayant, bon, bien sûr, avec une actualité dominée par le confinement et la crise sanitaire, de traiter tous les aspects avec les initiatives locales, avec le point sur l'évolution de l'épidémie dans la région. Mais il y avait aussi un cahier spécial, Sud-Ouest et vous, avec une page enfant qui a notamment d'ailleurs valu au journal de décrocher le label Nation apprenante. C'était très bien fait. Un espace donc de lecture dédié avec une recette, une visite aux archives, enfin des choses qui permettaient d'avoir un temps de lecture qui soit intéressant mais qui soit pas directement en prise avec la situation sanitaire traitée par ailleurs. Et puis, conséquence du confinement, ils ont vu exploser le nombre d'abonnés numériques. On était à 30 000 pratiquement hier et ils l'expliquent par deux phénomènes. Le premier, c'est que certains habitués de Sud-Ouest avaient pas très envie de sortir de chez eux puisque la consigne était plutôt de rester chez soi.
Et, je peux intervenir là ?
Bien sûr. Allez-y Catherine.
Oui, je voulais savoir si les kiosques étaient fermés à Bordeaux comme à Paris. C'est-à-dire que c'était difficile aussi d'aller acheter son journal, même si on ne voulait pas sortir.
C'est vrai, ce n'était pas forcément simple. Mais du coup, de toute façon, ils ont vu comme ça leurs fidèles se reporter sur l'édition numérique qui est extrêmement intéressante et riche, tout aussi riche que la version papier. Et puis, il y avait aussi, vous savez, ceux qui arrivent au bureau et puis il y a un journal à disposition dans l'entreprise, donc on lit le journal. Bah, eux, ils en ont été privés, puisque où ils étaient chez eux en chômage partiel ou en télétravail. Donc, ils se sont aussi abonnés à l'édition numérique. Donc ça, c'est plutôt la tendance intéressante, avec un recrutement qui était de 3 à 5 fois supérieur d'abonnés à l'édition numérique en mars et en avril pour Sud-Ouest. Mais, parce que c'est pas rien, ils ont vu aussi, comme tous les médias, la pub s'effondrer pendant la crise et le confinement, donc avec des pertes financières considérables. Aujourd'hui, ça repart, me dit-on, et ça repart bien. Voilà,
et,
on en est là.
Nous, Stéphane Placé, on a aussi vu la pub s'effondrer. Mais là, ça repart et je suis absolument obligé de la faire. On se retrouve très vite.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec également aussi nos correspondants en région qui nous éclairent sur les conséquences du confinement sur la presse.
Et en l'espèce, la PQR pendant la pandémie, on va terminer vite ce sujet avec d'abord Frédéric Michel en Côte d'Azur.
Oui, et ben ici, hein, depuis le 11 mai et le déconfinement, deux informations ont supplanté le virus. La mort de Michel Piccoli et une fantastique arnaque à l'immobilier. Sinon, on n'a vraiment fait que parler du confinement et du déconfinement. Aujourd'hui, le quotidien titre encore sur la crise. Il faut sauver Renault. Hier, il titrait enfin libre après les annonces du Premier ministre. Et cette semaine, on a également eu droit à Guillaume Musso, l'auteur le plus lu pendant ce confinement en France. Et pendant la période de confinement, toutes les unes ont été consacrées au Covid. Alors j'ai regardé pour trouver la première une où le virus n'est même pas évoqué en première page. Il faut remonter au 23 février. Nice Matin titré alors sur l'esprit cabaret, French Cancan et Froufrou.
Ah, c'est sûr que French Cancan, ça s'est arrêté assez rapidement. Bon, et enfin le Grand Est, Arthur Henbaché.
Oui, juste un mot sur l'économie de la presse. Les ressources pub des dernières nouvelles d'Alsace ici à Strasbourg ont baissé jusqu'à 90%, donc c'est évidemment catastrophique. Dans ma zone de balade, il y a l'Alsace, mais il y a aussi la Lorraine et la Franche-Comté. Donc j'ai aussi dans mon coin l'Est républicain et le républicain lorrain qui appartiennent tous, comme les DNA et comme l'Alsace, au groupe EBRA. Vous savez, ça appartient au Crédit Mutuel. Le groupe EBRA, de manière générale, va assez mal, comme toute la presse écrite en général. Ils avaient lancé un gros plan d'économie, de rapprochement des services, etc., avec un objectif d'équilibre, si tout va bien, peut-être à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine. Et bien là, tous les salariés du groupe ont reçu un mail à cause du coronavirus, c'est foutu.
Et ben voilà, tous les médias, les uns après les autres, sont allés plus mal les uns que les autres. C'est pas ici qu'on va vous démentir. La pandémie a été une catastrophe. Maintenant, normalement, nous devrions être en campagne électorale. Est-ce que nous sommes vraiment en campagne électorale ou est-ce que ça dépend des régions? Eh bien, on va y voir plus clair grâce à nos correspondants et on commence avec Lionel Gougelot, Hauts-de-France, où je crois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent du côté de Roubaix, si je ne me trompe pas.
Ah oui, du côté de Roubaix, c'est vrai, même s'il ne va pas y avoir de, comment dirais-je, de grandes surprises à l'arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le maire actuel, Guillaume Delbarre, qui est un ancien LR qui a reçu l'investiture et le soutien de La République En Marche, est arrivé en tête donc au premier tour et il va avoir face à lui une... a priori, une vraie coalition de gauche, une gauche qui avait été tellement divisée en 2014 qu'elle avait permis justement la victoire de Guillaume Delbarre. Alors, reste à savoir si ça va vraiment mettre en danger la majorité République En Marche de la ville de Roubaix. Les observateurs en doutent quand même, mais c'est quand même un fait politique notable. Et puis, ce qu'on va regarder surtout, c'est le résultat de Martine Aubry à Lille. Hein. Martine Aubry qui va s'acheminer vraisemblablement vers une triangulaire parce qu'elle va être... dans l'incapacité, j'allais dire même psychologique, épidermique, de faire alliance avec les Verts avec lesquels elle se bagarre depuis des mois et des années, des Verts qui faisaient pourtant partie de sa majorité. Martine Aubry est arrivée en tête, le candidat écolo est arrivé en deuxième position avec près de 25% des voix, et Violette Spielboot, la candidate République En Marche, est assez loin derrière à 17%. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir d'alliance entre ces différentes formations. Triangulaire donc en perspective pour Martine Aubry pour le 28 juin prochain. Martine Aubry qui a été, elle aussi, on parlait de Xavier Bertrand tout à l'heure, mais qui a été elle aussi, hein, au niveau de sa ville, assez présente en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, dans les mesures d'accompagnement, etc. Ce qui a fait peut-être aussi partie d'une certaine façon eh bien, de sa campagne électorale. Parce qu'elle a été quand même assez présente, Martine Aubry, même si elle faisait des visioconférences de presse. Médiatiquement, Martine Aubry a quand même été à la manœuvre. C'est ce qui peut-être lui donne un avantage politique dans l'optique du deuxième tour.
Et donc, excusez-moi d'enfoncer un tout petit peu le clou sur votre chute en vous posant la question que je déteste qu'on me pose. Donc, vous pensez qu'elle va être élue?
Je vois mal Martine Aubry ne pas être réélue.
Ah bah si. C'est bien, voilà
ma réponse.
Voilà. Ah bah voilà, bah c'est pas une réponse de Normand, c'est une réponse de personne lilloise qui s'engage, c'est très très bien. Qu'est-ce qui se passe du côté de Bordeaux en termes de campagne électorale, Stéphane Place?
Ben, un moment historique, c'est pas à vous, prof de Sciences Po, que je vais l'apprendre. Depuis plus de 70 ans à Bordeaux, il n'y avait pas de deuxième tour. Ben là, non seulement il y a un deuxième tour, il va y avoir même une quadrangulaire, et ça va être serré, puisque le 15 mars dernier, le maire sortant... désigné comme l'héritier d'Alain Juppé, Nicolas Florian, avait 96 voix d'avance sur Pierre Urmic, opposant écolo. 96 voix d'avance. Et puis, quadrangulaire, parce qu'il y a deux autres candidats. Il y a l'anticapitaliste Philippe Poutou qui a réalisé près de 12% des voix, qui a rassemblé près de 12% des voix. Et puis, il y a en troisième position le marcheur Thomas Cazenave. Et... sauf coup de théâtre, mais enfin je vois pas bien comment ça pourrait se produire. Mardi prochain, quand ils vont déposer leur liste, il va se confirmer qu'il y aura bien quatre candidats au second tour, avec évidemment une campagne assez particulière, c'est même le moins que l'on puisse dire. Catherine va me le confirmer, mais c'est dans le Sud-Ouest que j'ai lu ça cette semaine. C'est Chaban qui disait « serrer une main, ça ne coûte rien et ça peut rapporter beaucoup ». Ben là, on ne va pas serrer de main, puisque vous le savez, les conditions de la campagne sont très limitées et ce sera par voie numérique principalement. Donc comment vont-ils faire vivre les uns et les autres les thèmes qui, d'ailleurs, reviennent sur l'environnement, la santé, les déplacements, des choses qui étaient très présentes, de toute façon, très présentes dans la campagne avant le confinement, parce que Bordeaux a justement ces difficultés-là par rapport à son attractivité. Il faut maintenir une qualité de vie. Donc, c'était des thématiques qui étaient déjà omniprésentes. Elles vont l'être sans doute davantage. Mais y aura-t-il une prime, par exemple, à l'exposition du maire en fonction, qu'on a beaucoup vu,
oui,
Nicolas Florian,
pendant
la crise.
Il s'est beaucoup démené, oui, c'est
énormément.
Ça, c'est...
Donc, forcément, il a été très médiatisé, alors que les autres étaient obligés de mettre la campagne entre parenthèses. Ça a été le cas de Pierre Urmic, c'était le cas également des deux autres qualifiés pour le second tour. Je pense à Thomas Cazenave qui communiquait sur les réseaux sociaux comme un bon père de famille, c'est-à-dire il montrait les gâteaux qu'il faisait avec ses enfants. Enfin bon, voilà, en attendant, celui qui occupait le devant de la scène, c'était celui qui était aux manettes et c'était le maire.
Oui, mais alors ça profite à beaucoup d'endroits, c'est ce qu'on a dit au maire sortant. Coup de bol à Strasbourg, le maire sortant n'est pas candidat, si je ne me trompe, Arthur.
Oui, absolument. Tout à fait, ouais. Roland Ries raccroche, il n'est pas mécontent d'ailleurs je crois. Moi je me pose une question, ça fait combien de temps le premier tour? 3 mois là si je ne me trompe pas, quasiment. Ils avaient des jours et des jours et des jours pour négocier pour les fusions de listes pour le deuxième tour et si j'en crois ce que je dis dans le journal depuis 2-3 jours, on est parti pour une négociation, j'allais dire comme d'hab, jusqu'à la dernière seconde pour fusionner peut-être les écolos, les socialistes en marche. Comment ça se fait? C'est moi qui vous pose la question pour le coup. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas mis d'accord plus tôt?
C'est l'effet confinement, ça gèle un peu les...
Moi je dirais peut-être l'effet confinement mais en deux mots. Parce que très franchement, je pense que dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle institution, si on savait qu'on est obligé de passer ou pas à accord avec d'autres pour survivre et qu'on a un mois et demi devant nous, j'attendrais pas les dernières 48 heures. Mais c'est les manies des politiques, ils ont l'habitude de faire ça les 48 heures qui précèdent le mardi, ils se sont dit jusqu'au bout, oh ça va, on va pointer ci, on va pointer ça, puis c'est comme au poker, personne n'a voulu montrer son jeu.
En fait, peut-être qu'ils aiment ça.
Oui, ils aiment ça. Et alors à Strasbourg, donc, il y a quand même, une fois de plus, le problème de la relation entre... de ce que va faire la République En Marche, quoi, finalement.
Oui, qui est le candidat qui s'appelle Alain Fontanel, qui est ici à Strasbourg, ça fait un an, deux ans, trois ans que tout le monde dit au sujet d'Alain Fontanel le futur maire, parce que c'est oui. Tracé, c'était gagné d'avance, et puis finalement, Vlatipak, les écolos sont à la mode, et puis aussi que le retour de, attention, accrochez-vous, Catherine Trottmann,
yes.
Élue maire pour la première fois, si je ne me trompe pas, je n'ai plus les chiffres, mais je crois que c'était 1989, ici à Strasbourg, qui, à la faveur d'une histoire de mœurs un petit peu particulière, a été contrainte, dit-elle, de reprendre la première place de la liste socialiste, sauf qu'elle a fait un retour bazooka. La tête de liste socialiste avant elle était dans les choux et elle est avancée à fond la caisse. Résultat, elle est vraiment en mesure de, au minimum, choisir qui pourra être le maire entre Alain Fontanel En Marche ou Jeanne Barseguian, la candidate d'Europe Écologie Les Verts. Donc,
Politique, you never die. Politique, you never die. Et alors, dernier sujet à traiter pour nous, le déconfinement, après une petite pause.
Se passe le déconfinement en région? Eh bien, réponse avec les correspondants d'Europe 1 sur place qui sont en ligne avec vous, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Catherine?
Oui, je voulais savoir auprès des correspondants s'il y a eu, évidemment le grand débat pour ou contre Raoult et son hydrochloroquine, c'était un peu un débat Marseille-Nice contre Paris et les élites. Et je voulais savoir si ce débat-là avait un peu été dans toutes les provinces et c'était partout le même débat, la province contre Paris.
Excellente question, on va commencer justement par Nice et puis on fait le tour, mais vite, vite.
Oui, alors c'est vrai que l'opinion est plutôt favorable ici par rapport aux déclarations du professeur Raoult sur la chloroquine. Vous le savez, Christian Estrosi, le maire de Nice, lui-même malade pendant cette crise, a soutenu le professeur Raoult. Il a dit lui-même avoir pris de la chloroquine. D'ailleurs, Christian Estrosi qui était très très présent sur tous les tableaux, sur le couvre-feu, sur avant même le déconfinement, l'annonce du port obligatoire des masques.
Michel, on est obligé d'aller vite. Je sais que vous voulez faire plaisir à Estrosi, mais on est pressé.
Non, mais c'était pour dire qu'il était très très présent sur toutes ces questions, et notamment sur le plan de la chloroquine.
D'accord. Et alors, Stéphane Place, dans le Sud-Ouest?
Oh, nous, on a été, on n'a pas vu un débat passionné. On n'est pas à Marseille, on n'est pas à Nice. Vous savez, la Nouvelle-Aquitaine et la région bordelaise en particulier, c'est la région de la tempérance et de la mesure.
Parfait. Benjamin Peter, en Occitanie, c'est moins tempéré qu'à Bordeaux?
Oh, pas tant que ça. Non, nous aussi, effectivement, on s'est tenu un peu loin de ce débat. Puis quand on peut s'opposer au Sud-Est, vous savez, Sud-Est, Sud-Ouest, finalement. Excellent. Non, après, on a suivi ça, forcément. On a suivi forcément ça, mais de loin.
Bon, excellent. Qu'est-ce que vous avez contre le Sud-Est, El Mbaché?
Écoutez, comme au tennis, on regardait les balles entre Paris et Marseille. L'Alsace est aussi plutôt une terre de sagesse.
Mais c'est dingue, vous vous rendez compte? Alors franchement, moi j'apprends ça. On a parlé, mais que de ça, que de ça, que de ça à Paris, à Marseille, que de ça. Heureusement, Catherine a dit qu'il fallait absolument poser cette question. Lionel Gougelot.
Moi, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions anti-Frogel de la part de certains médecins de terrain, des médecins de famille, etc. Mais une voix discordante dans ce concert, celle de Philippe Frogel, un généticien, un chercheur lillois, qui soutient Didier Raoult et qui vient de déclarer il y a quelques heures sur son compte Twitter que l'étude du Lancet, c'était une merde.
D'accord.
Donc, quand même, un peu de débat ici dans la région Hauts-de-France.
Très instructif tout ça. Alors, avant que je fasse un petit tour aux États-Unis tout à l'heure, parce qu'il y a un immense sujet médiapolitique qu'il nous faut traiter et traiter correctement, juste un dernier tour entre chacun d'entre vous sur ce qui vous frappe dans la façon dont se passe le déconfinement. Et on commence, puisque vous êtes là, vous venez de parler de Lionel Gougelot, allez-y, mais vraiment chacun, juste un point qui le frappe.
Moi, c'est la ruée vers les belles et grandes plages du Nord. Vous savez que les plages de la Côte d'Opale et les plages du Nord ont été rouvertes il y a quelques jours, alors même que la région de France était encore en zone rouge. C'était un petit exploit quand même de la part des élus d'avoir obtenu la réouverture.
Parfait.
Et là, vraiment, on sent un vrai bol d'air là, qui nous vient de l'ouest de la
région. Excellent. Et en plus, si un jour vous avez besoin d'un boulot, directeur du tourisme à la région, c'est magnifique. Alors ensuite, Grand Est, Arthur M. Bachet.
Moi, ce qui me frappe, c'est comment les gens sont renvoyés avec ce qui se passe ces jours-ci à leur responsabilité, à leur conscience, à leur... C'est des décisions ultra intimes, voir des amis ou pas. Je vois ne serait-ce que dans mon entourage, il y a mille manières de voir les choses. J'ai même vu des gens, vous savez quoi, qui se sont fait la bise.
Stéphane Place.
Moi, c'est le nombre de copains qui vivent notamment en région parisienne et qui m'appellent en me disant « Mais j'ai découvert le télétravail, je vois pas ce qui m'empêcherait de partir et de m'installer vers chez toi parce que finalement, j'ai démontré que j'étais tout aussi efficace à distance qu'en étant présent dans le quartier de la Défense, par exemple, dans un tout petit bureau avec tous les embêtements qu'on peut avoir pour s'y rendre en termes de circulation. » Et donc, voilà, j'aimerais bien... franchement, ça va être intéressant à suivre.
Qu'est-ce qui va rester ? Ça fait monter déjà l'immobilier.
Oui, et puis du côté de la Dordogne qui vous est chère, par exemple, Catherine, oui, je crois qu'il y a des envies d'installation, oui, bien sûr.
Oui, du coup, Catherine n'achète plus la maison qu'elle avait prévue. Benjamin Péter.
Chez nous, il y a eu le cas de l'Hérault, notamment, où beaucoup de plages ont pu rouvrir, mais de façon dynamique. On s'est habitué maintenant à cette expression, les plages dynamiques. Il y a eu un petit îlot à la Grande Motte qui a tenté quelque chose en faisant la plage organisée.
C'est-à-dire que vous réserviez
sur Internet et vous pouviez entrer dans cet espace assez étonnant, les locaux étaient très surpris de voir ça, des piquets, des cordes qui permettaient de délimiter des emplacements avec des allées pour descendre à la mer.
Et ça a marché finalement ?
Ça a très bien marché, c'est-à-dire que beaucoup de familles notamment, moi quand je les voyais, ils me disaient, mais vous savez, les plages dynamiques, il faut courir derrière les enfants, etc., c'est compliqué. Là, on peut s'opposer un petit peu, aller à l'eau, revenir, et finalement, il y a des gens qui réservaient à 4h du matin, c'est là où il y avait l'ouverture des réservations, c'était gratuit, il fallait pouvoir s'inscrire, ça soit ouvert à 4h du matin, et les gens disaient je réserve ma place dès 4h du matin pour être sûr d'avoir quelque chose.
4h du matin pour aller à la plage, moi je reste à Paris. Et enfin, dernier mot, Côte d'Azur, Frédéric Michel, à Paris-Sprosy.
C'est l'inquiétude des professionnels du tourisme, soulagés de savoir d'abord que les Français vont pouvoir voyager, certes, mais qui se pose aussi la question du voyage des étrangers. Vous savez, ici, entre 30% et 50% de la clientèle pour certains établissements est étrangère, donc on attend le retour des Asiatiques, des Américains, des Anglais, des Scandinaves. Enfin, c'est un besoin vital ici.
On voit, grâce à ce tour d'horizon, ça nous rappelle le poids considérable du tourisme dans le PIB, dans l'économie française. Allez, une dernière petite pause et après, alors là, vous allez voir Trump et Twitter, vous en avez entendu parler, mais ça s'aggrave et c'est quelque chose.
Ce samedi, vous retrouvez Olivier Duhamel et Catherine Ney jusqu'à 11h pour Mediapolis sur Europe 1.
Alice Baudry, qui dirige la communication et le marketing de l'Institut de Montaigne, veille pour nous sur les médias internationaux. Là, je n'avais pas franchement besoin de sa veille pour repérer les incidents entre Twitter et Trump, mais j'en avais besoin pour trouver le média. The Verge, média en ligne américain créé par Vox Media, qui traite l'actualité technologique de l'information et des médias. The Verge, article du mardi 26 mai. Sur le site, pour la première fois, Twitter a qualifié deux tweets du président Donald Trump de fausses déclarations. L'étiquette a été collée sur les affirmations du président que les bulletins de vote par voie postale sont substantiellement frauduleux et entraînent des élections truquées. Donc, tweet du président contre le vote par correspondance. Élection truquée. Étiquetage par tweet disant fausse déclaration. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais vu qu'ils se permettent sur tous les tweets plein de fausses déclarations de tweets de Trump depuis son élection, voire avant, de mettre cela. Un porte-parole de Twitter a déclaré que cette décision était conforme à une nouvelle politique introduite plus tôt ce mois-ci, visant à limiter la propagation de contenus potentiellement dangereux et trompeurs liés à la pandémie. Et puis, depuis cet article de The Verge, vendredi, à 1h53 du matin, Trump a tweeté « When the looting starts, the shooting starts ». Quand les pillages commencent, les fusillades commencent. Et là, Twitter, considérant que c'était un appel à la violence, lui a mis une étiquette « glorification de la violence » et n'a pas supprimé le tweet uniquement parce que c'était le président des États-Unis, alors que sinon, il aurait été coupé. Ce qui met Trump hors de lui, vous vous rendez compte quand même, Twitter qui qualifie le tweet du président de glorification de la violence. Alors d'abord, il fait marche arrière, Trump, en ceci que la Maison-Blanche déclare que ce n'était pas une incitation for the shooting, à tirer. C'était le constat d'un fait. C'est assez hypocrite, mais c'est significatif parce que c'est très 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 rare que Trump fasse marche arrière. Et puis ensuite, il a décidé. Le deuxième aspect de la marche arrière, c'est qu'il a appelé la famille, puisque tout ça, c'est donc l'histoire de ce noir qui a été tué, frappé à mort, et la vidéo l'a montré par un policier avec trois autres policiers autour de lui. Il a appelé la famille pour dire qu'ils étaient à ses côtés, ce qu'il n'avait jamais fait dans des cas équivalents, mais il menace de revoir les règles d'autorégulation confiées au réseau, aux hébergeurs des réseaux sociaux pour leur substituer des règles différentes. Donc c'est la guerre entre Twitter et Donald Trump. Comme il y a eu une forme de guerre médiatique entre le professeur Raoult, Marseille, et plein de professeurs Paris, mais pas partout en France, grâce à l'émission d'aujourd'hui, l'avons-nous appris. Néanmoins, pour rendre hommage à cette semaine très raoultienne, sans qu'il s'agisse d'une prise de position ni pour ni contre, une chanson trouvée par Jean-Luc Herblade en 1958, pourtant il n'était pas né, mais il a une grande culture des chansons, Jean-Luc Herblade, Annie Cordy, Docteur Miracle.
Que s'est-il passé pour qu'il la garde plus d'une heure? Ça, c'est le secret professionnel. Mais la jolie cliente avait la mine bien meilleure, et c'est ainsi qu'un jour sous un beau ciel, bonheur, et allez donc, pour lui et son amour devant l'église en fleurs. Tout le pays chantait le plus curieux des cœurs, et c'était
Annie Cordy, Docteur Miracle, 1958. Eh bien, je voudrais spécialement remercier nos formidables correspondants en région qui ont animé cette émission. Lionel Gougelot, correspondant dans les Hauts-de-France. Arthur Elmbacher, en un seul mot, H-E-L-M-B-A-C-H-E-R, dans le Grand Est. Frédéric Michel sur la Côte d'Azur. Stéphane Merci Place dans le Sud-Ouest. Benjamin Péter en Occitanie. Évidemment, notre formidable réalisateur Jean-Luc Herblade, la merveilleuse Justine Holman, Catherine Ney, qui est exceptionnelle.
Oui, et moi aussi, qui dit merci à nos correspondants qui ont été formidables.
Et puis, faites écouter.
On vous embrasse, Catherine.
On vous embrasse très fort, Catherine.
Ah, ben, il y en a que pour Catherine, hein.
C'est normal. Ah,
on adore. Allez, petit bisou, Olivier.
Ah, merci. Heureusement que j'ai un supporter. Faites écouter l'émission en podcast sur Europe1.fr. Nous, on se retrouve samedi prochain, et en attendant, c'est l'ami Laurent Mariotte. Hey.